This is the Humans Link Audio Experience.
Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin French, j'espère que vous allez super bien, je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle pause café avec Humans Link, le live parce qu'on croit que l'adaptation et la résilience sont les plus grandes forces de l'humanité. Et on se donne rendez-vous tous les jours de la semaine à 11h pour créer du lien, renforcer le lien humain, l'entraide, mais aussi la solidarité. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se connectent déjà. N'hésitez pas à nous dire d'où est-ce que vous nous suivez ce matin, ce lundi. Et aujourd'hui, il y a un invité que je n'ai pas vu depuis très longtemps, mais je suis particulièrement heureux de le recevoir aujourd'hui sur ce live. C'est un ami de longue date d'ailleurs. Il vient de Guadeloupe et aujourd'hui, il est aux Pays-Bas. Il a étudié à l'Académie Design de Eindhoven aux Pays-Bas. Et il fait partie de ceux qui croient que les humains ont besoin de bouger pour apprendre. Bonjour Alvin.
Hello, hello Valentin.
Comment tu vas?
Bonjour à tout le monde. Ça va super, ça va super. Écoute, il fait beau, je suis à mon studio là.
Ouais, je vois ça, t'es en extérieur, c'est super. Moi, j'ai pas la chance d'avoir ce cadre. Il y a des beaux arbres et tout derrière toi.
Yes, yes, yes. Bah, écoute, on parlait la dernière fois, tu me disais que Humans League, c'était à propos de résilience. Donc, je me suis dit... Je vais me mettre à côté d'un petit bambou qui est là, puisque pour moi, ben, un matériau qui représente bien la résilience, c'est bien le bambou.
Le bambou, au top. Et là, tu nous parles d'où là, ce matin?
Donc, je suis à Eindhoven, au sud des Pays-Bas. C'est là que je vis depuis bien 6 ans et demi. Et, wow. Et du coup, ben, excusez-moi si j'ai des petits bugs en anglais pendant que je parle français. C'est tout à fait normal.
Bon, écoute, moi, je vais faire mon possible pour traduire à la volée. Yes. Je vois qu'il y a Zazou ici, Isabelle, qui nous
bonjour,
dit.
Bonjour, Zazou.
Et il y a William qui nous suit sur YouTube. D'ailleurs, si vous nous suivez sur Facebook, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à nous dire en commentaire un petit coucou et nous dire aussi d'où est-ce que vous nous suivez en ce moment. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas. Ah, il y a Arnaud qui est ici.
Paris est dans la...
Paris est là, Arnaud de Paris, qui nous suit sur YouTube. Et d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un like pour nous aider avec l'algorithme de YouTube et un petit abonné avec, vous connaissez, la petite cloche pour les notifications. On revient tous les jours de la semaine à 11h pour des nouveaux lives avec des invités, des humains extraordinaires à chaque fois. Je profite pour saluer Jen de Martinique ici. C'est Yann Nathalie qui nous suit. Donc, toi, Alvin, tu viens de Guadeloupe.
Oui.
Je le sais parce qu'on a étudié ensemble.
Ça fait
10 ans. Aujourd'hui, tu es aux Pays-Bas, ça fait 6 ans et demi. Ouais. Et tu es ce qu'on appelle un designer kinesthésique.
Exactement.
Donc moi, je t'avoue, j'ai dû rechercher un petit peu pour comprendre les tenants et les aboutissants de tout ça. Je suis un fan de design, mais le design kinesthésique, je n'avais jamais entendu parler.
Okay.
Avant de voir un article que tu avais publié la semaine dernière, il y a d'ailleurs.
Ouais,
qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un designer kinesthésique?
Qu'est-ce qu'un designer kinesthésique? Déjà, je pense qu'il faut parler de qu'est-ce que le design avant, parce que je pense que dans l'audience, ça se peut qu'il y a des gens qui ne sachent pas exactement qu'est-ce que c'est. Je peux donner ma version de. Bien sûr. Je pense que c'est un état d'esprit et une discipline, avant tout, qui vise à créer du sens et améliorer une situation donnée. Et qu'est-ce que j'entends par là? Parce que ça fait pas mal de termes, on va dire. Un état d'esprit, pourquoi? Parce que le design est basé sur la curiosité et le besoin de changement. Ensuite, une discipline, parce que oui, c'est un ensemble de méthodologies transversales à différentes disciplines qui sont amenées, en fait, d'une manière peu conventionnelle. Donc, on va piocher dans de la psychologie, on va piocher dans des process de management, on va piocher dans des process de marketing, etc. Okay. Et créer des process qui offre différentes perspectives en fait aux utilisateurs.
Donc le design, c'est une discipline, c'est un état d'esprit, c'est un rapport à notre environnement, où l'idée, c'est de... Donc, c'est son témo, hein, créer du sens pour améliorer ou améliorer une situation donnée.
Exactement. Donc, créer du sens, ça peut être tout simplement, donner, par exemple, un workshop de prise de décision. Donc, il y a beaucoup de données. Et les acteurs de ce projet, ils ont du mal à prendre des décisions, à savoir de A à Z, quels sont les tenants et les aboutissants. En fait, on va créer une méthodologie qui permet aux acteurs de prendre des décisions collectivement, par exemple. Ou améliorer une situation, par exemple, si la situation est un problème, par exemple. La situation peut être une idée. J'ai une idée, j'aimerais réaliser ça. Un constat, j'ai constaté ceci et j'aimerais communiquer sur ça. Ou un problème, par exemple.
Quelque part, il y a beaucoup de gens même qui ne sont pas designers qui pourraient bénéficier de cette approche, de cette notion de design. Est-ce que, il y a un terme qui revient pas mal depuis quelques années, c'est le design thinking. Oui. Est-ce qu'on est dedans ou est-ce que c'est quoi le lien
Très clairement, très clairement. En fait, il y a différents courants dans le design. On a le design qui peut être basé plus sur de l'artisanat, sur de l'art, etc. Et le design thinking, en fait, c'est une façon de penser le management d'un projet, en fait. Donc, c'est une suite de méthodologies qu'on va mettre en place qui vont aider les acteurs du projet à répondre à leur projet de manière créative et avec un process solide, en fait.
Ok, donc c'est la partie systémique quelque part du design.
Exactement.
Top.
Alors, la partie agile, ouais.
Comment tu fais quand tu es jeune Guadeloupéen, tu finis le bac et qu'est-ce qui se passe pour que tu quittes la Guadeloupe et que 10 ans plus tard, tu te retrouves Eindhoven aux Pays-Bas en tant que designer.
Je pense que pour beaucoup d'entiers et peut-être de Caribéens, c'est le cas. J'ai eu des parents qui m'ont dit que c'était très important d'aller voir ailleurs, de voyager et de pas forcément penser que je ferais toute ma vie, toute ma carrière en Guadeloupe, mais vraiment d'être curieux et de voir ce qui se passe autre part. Et en fait, j'avais le choix d'étudier l'économie à la CCI en Guadeloupe ou d'étudier d'abord en école d'art à Paris. Et du coup, j'ai fait un choix de cœur, on va dire. Je suis parti étudier à l'ENSAM à Olivier de Serres à Paris. Il est parti loin, William dit, oui, 7000 kilomètres, c'est du chemin. J'ai dû étudier pendant une année en école d'art et j'ai découvert vraiment un autre monde auquel je n'étais pas habitué, puisque même si l'art est connu dans la Caraïbe, c'est une autre dimension aussi à Paris. Et en fait, à travers ces écoles d'art, j'ai découvert ce qu'est le design, qui est un ensemble de méthodes beaucoup plus appliquées. Et à la base, j'ai commencé avec du design produit, donc vraiment industriel, donc créer des logiciels, créer des chaises, créer des tables, des choses assez pragmatiques, en fait.
D'accord.
Ouais. Et à un moment, je me suis dit, au bout de 2 ans de design produit, après avoir obtenu mon bachelor, je me suis dit en fait qu'il me manquait quelque chose et que je n'avais pas forcément envie de créer la prochaine voiture, créer la prochaine table, mais que j'avais envie de découvrir un peu plus qu'est-ce que je pouvais faire avec toutes ces méthodes, en fait.
Ok.
Et c'est là que j'ai découvert un design un peu plus conceptuel à la Design Academy d'Eindhoven. Et notamment où j'ai pu développer mon approche en tant que designer kinesthésique, qui est en fait démarrer un projet à partir des mouvements du corps, en fait. Donc, pour te donner un exemple, par exemple, disons que si je veux créer une théière, mm-hmm. comment on appelle ça, une théière, je pourrais dire, OK, je commence à faire des croquis, je commence à dessiner, j'imagine à quoi ça ressemblerait, quel matériau, bon, ben de la céramique, etc., etc. Ou je peux démarrer à travers les mouvements du corps. Donc, je me dis, quel type de mouvement je voudrais que l'objet fasse, en fait. Comment j'aimerais prendre en main la théière. Et quel procédé arriverait à travers ces mouvements, quel type d'émotion se retranscrivrait, quel poids du coup l'objet aurait, quel matériau il serait fait après. Mais ça démarre vraiment du mouvement du corps. Et c'est ça que j'enseigne du coup à mes élèves aussi à Eindhoven, c'est de démarrer par la perspective du corps pour créer designer leurs produits ou leurs interactions.
Ok, et je crois que sur... Donc, on a discuté un petit peu avant le live et tu me parlais d'un... Il y a un projet qui avait particulièrement attiré mon attention, c'était Open Lab.
Oui.
Où c'était une approche justement... tu as utilisé des outils de design pour... Et ton intérêt pour le mouvement,
oui.
Pour repenser l'éducation. Exactement. C'est bien ça?
Oui, partiellement. En fait, l'objectif principal, c'était vraiment de repenser l'éducation.
Oui.
Donc, ça a été fait de manière collaborative. On a été le premier groupe d'étudiants, en fait, dans l'école, à repenser un peu qu'est-ce que l'éducation du design dans notre école. Et on a créé notre propre cours, on a recruté nos propres mentors. Et l'idée, c'était que nous soyons assez, le plus indépendant possible par rapport au système de l'école. Donc, on définissait notre programme éducatif. Et une partie de ce programme était proposée par moi, qui était les mouvements du corps, en fait, et qu'est-ce que ça pouvait amener. Mais d'autres personnes ont proposé, par exemple, de la programmation ou de la photographie, et comment ces procédés pouvaient amener à nos études, en fait, et de la manière dont on voit notre éducation. Et au cours de ce cours, ouais, qu'on a créé, j'ai pu développer ma compréhension de ce que le mouvement du corps pouvait amener, en fait, parce que c'est difficile à comprendre, surtout quand on est assis toute la journée sur une chaise, de comprendre comment le corps peut apporter au processus d'apprentissage et aux manières de travailler, aux manières de comprendre les choses. Pourquoi ? Parce que la compréhension est active. Avoir un meeting assis et avoir un meeting en marchant, c'est deux choses complètement différentes, en fait. Pourquoi ? Parce que les dynamiques qui se passent dans le corps, qu'on parle, la mémoire corporelle joue énormément, en fait, dans ce qu'on va dire, dans la manière dont on va interagir. La lecture du langage corporel aussi. Donc, pour moi, ce sont des dynamiques qui sont extrêmement importantes de prendre en compte, et je n'arrive pas à comprendre, en fait, pourquoi encore aujourd'hui en 2020, dans la plupart des classes, on demande aux gens de s'asseoir pour apprendre et de recevoir une lecture comme ça et une conférence comme ça, ou d'être noyé d'informations par un professeur, alors qu'on bénéficie d'un corps qui est hyper intelligent et qui peut fonctionner vraiment. En symbiose avec notre esprit. Donc c'est ça que
c'est ça qui m'intéresse. C'est ton travail. Donc aujourd'hui tu es consultant indépendant. Oui. Tu es aussi éducateur.
Oui.
J'ai passé, on te voyait à l'instant là en train de donner une conférence notamment. Oui. Et tu es aussi directeur artistique.
Oui. Exactement.
Okay. Super. Donc, en utilisant justement ces outils-là pour la partie directeur artistique, et peut-être tu peux préciser.
Oui. Alors, directeur artistique, principalement, ben, je vais donner un projet, mais en fait, je dirais plus directeur de création que directeur artistique.
Okay.
Pourquoi ? Parce que ça relève pas de projet de procédé purement artistique, mais il y a beaucoup de management aussi qui se met en place. En ce moment, j'ai un projet qui s'appelle Body Coding, où je travaille en collaboration avec plusieurs programmeurs. Et l'idée, c'est d'enseigner aux enfants la programmation à travers les mouvements du corps.
Okay.
En fait, tu te rends compte en enseignant la programmation à des enfants ou à des gens en général que c'est assez difficile à expliquer. Pourquoi ? Parce que ben, déjà, les gens, ils doivent apprendre à... Enfin, les enfants, on va dire, ils doivent apprendre à taper sur un clavier avant de pouvoir comprendre okay, comment la programmation fonctionne. Donc, tu as une barrière en plus avant qu'ils comprennent ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire. Et en te basant sur les mouvements du corps qui est inné, qui est beaucoup plus naturel, et en insérant la chorégraphie dans la manière d'apprendre la programmation, tu le fais en fait de manière beaucoup plus démocratique. Et en fait, ce projet Body Coding que j'ai avec mes amis programmeurs, je suis le leader créatif en fait.
Ok. C'est génial. Donc en fait, au lieu de passer par une approche qui est hyper intellectuelle, tu permets en étant avec une approche systémique et intelligente de rendre ce processus d'apprentissage beaucoup plus, enfin l'expérience de cet apprentissage beaucoup plus physique, beaucoup plus palpable presque.
Ouais, ouais.
Il y a Yolande qui pose la question, est-ce que tu utilises le langage des signes ?
Alors, j'ai étudié le langage des signes, enfin certains langages des signes, parce qu'il y en a plusieurs du coup, et je suis pas encore au détail des mains et de la gestuelle aussi resserrée, je suis plus dans l'intégration de tout le corps. Et en fait, la plupart du temps, quand j'enseigne à des enfants, c'est beaucoup plus facile en fait de prendre en compte tout le corps. Et ben, je vais utiliser des mouvements qu'ils connaissent très bien, des mouvements par exemple de danse, de hip-hop qui est très très populaire en ce moment, donc des mouvements qu'ils connaissent, et ouais. Je vais les faire correspondre à certains vocabulaires de programmation, et comme ça ils arrivent à s'imaginer ok, en faisant la chorégraphie, comment ils vont réussir à coder.
Ok.
Ouais, exactement.
J'ai vu sur les réseaux que tu étais aussi DJ.
Oui, ça c'est pour le plaisir. Okay.
C'est sur la musique aussi, tu... Multifonction.
Allô, tu m'entends ?
Oui, je t'entends.
Oui.
Je suis revenu.
Il y a eu un petit problème. Oui, sur la musique aussi. En fait, à Eindhoven, avec des amis danseurs, on a créé une multifonction. Merci, Willow. Avec des amis, un groupe, un collectif de danseurs, on a créé un format où on invite en fait des danseurs à venir jammer ensemble, à venir danser ensemble, parce okay. que pour moi c'est très important. Ça fait partie de mes inspirations kinesthésiques.
Okay.
Et donc on a créé ce format de jam et de soirée où les danseurs viennent en fait et s'amusent ensemble. Et du coup, ben je mets le son.
Ouais, c'est top. Il y a, je regarde en commentaire, il y a deux commentaires que je fais remonter de Jen, je pense, qui est en Martinique, et qui demande si tu es en contact avec des jeunes Guadeloupéens pour leur montrer qu'on peut réussir en tant qu'Antillais.
Oui. Je suis en contact avec pas que des Guadeloupéens d'ailleurs, plusieurs Caribéens, de la Dominique, de Aruba, Curaçao. Plusieurs îles vraiment, et en fait avec Arnaud qui a commenté tout à l'heure, Arnaud Archimède, William et Karine, on a créé un projet qui s'appelle We Are the Whistle. Hello Arnaud. yes. We Are the Whistle, donc allez voir sur internet wearethewhistle.com, Et en fait, c'est un projet qui vise à utiliser les méthodologies du design pour amener plus de création d'entreprises et de projets dans la zone Caraïbe, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un manque d'opportunités à ce niveau-là.
Ouais.
Et que même quand il y avait des opportunités, il y avait peut-être cette impression qu'il n'y avait pas assez d'opportunités. Et donc, du coup, on est en discussion permanente avec des jeunes caribéens pour leur montrer que oui, il y a des gens qui réussissent. Et oui, il y a des gens qui sont là pour être des modèles pour eux et pour les aider à maintenir et à activer leur projet.
Donc il y a une autre question aussi qui est, as-tu l'intention de revenir en Guadeloupe ? Donc ça répond en partie, je pense. Il y a des projets maintenant, Where the Whistle est un projet caribéen, donc pas juste guadeloupéen ou martiniquais, mais qui s'adresse à la Caraïbe,
oui.
ce que j'entends. Donc revenir en Guadeloupe, oui et non du coup.
Oui, en tout cas dans la Caraïbe. Après, demain, je ne sais pas de quoi demain est fait, mais c'est une opportunité que je veux m'offrir de pouvoir essayer de créer cette alternative et ce chemin pour moi et pour d'autres Caribéens. Et donc oui, je participe à créer ce retour en fait.
Donc c'est parce que tu me disais aussi en aparté que c'est un peu la réflexion, parce que bon, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous le savez, mais ceux qui viennent d'arriver, moi je suis à Montréal, ça fait 10 ans que je suis à Montréal, même si on travaille beaucoup avec Jean-Jacques French et Human Sync en Guadeloupe. Mais du coup, on est, Alvid et moi sommes deux jeunes qui sommes partis il y a 10 ans. Et c'est intéressant de voir que bon, bah, après un certain temps, quelque part, on prépare chacun un retour, ou en tout cas, comment partager notre expérience et les connaissances qu'on a pu acquérir en voyageant, et de pouvoir les redonner à la Caraïbe qui nous est chère finalement. Et toi, avec l'éducation et le design étant deux sujets qui te sont chers, tu me parlais d'un constat sur l'éducation dans la Caraïbe. Et quelque part, on en est la preuve aussi de ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Alors, oui. Je ne dis pas qu'on est des cerveaux, même si... c'est l'idée, ça. C'est qu'on est, on a étudié, on a quitté pour poursuivre notre cursus.
Mm-hmm.
C'est quoi ce constat aujourd'hui sur l'éducation caribéenne que toi, tu fais, Alvin?
Oui, alors, c'est un constat qui a été fait avec, justement, via We Are The Whistle. On a mené une petite enquête avec, en interrogeant, justement, un panel de jeunes caribéens.
Mm-hmm.
Et on s'est rendu compte qu'on avait des problématiques assez similaires, en fait.
Similaires à Guadeloupe, n'est-ce pas?
Similaires entre toutes les îles, en fait, exactement. Donc, entre les îles. Donc, les jeunes caribéens qui souhaitent étudier ont tendance à partir. Déjà, il faut se rendre compte que la Caraïbe anglophone, la Caraïbe francophone, c'est assez différent dans ce qui est enseigné et la fuite des cerveaux aussi. On a l'habitude de dire fuite des cerveaux. Ça ne prend pas en compte tout ce qui est kinesthésie, justement. Et donc, j'aimerais un peu changer ça, parce que ça ne se passe pas uniquement là, je pense. Mais disons un peu fuite des talons, on va dire.
OK.
Donc, je disais que la Caraïbe anglophone, la Caraïbe hispanophone et la Caraïbe francophone ont des manières de voir l'enseignement différents. Et nous, en tant que Caraïbe francophone, c'est très difficile de connecter avec les autres Caraïbes déjà, parce que ben il y a une limitation au niveau de la barrière de la langue.
Mm-hmm.
Et je pense que cette interview, enfin cette enquête nous a permis de réaliser pas mal de choses, de pas mal de points communs qu'on avait avec eux, notamment sur la création d'opportunités au retour, parce que les structures qui sont mises en place déjà à la base sur le territoire ne sont pas adaptées à la rapidité avec laquelle on apprend quand on s'ouvre à l'international et qu'on veut revenir et adapter cet apprentissage sur place. En fait, soudainement, on n'est plus vraiment... on est un peu aliéné. On n'est plus vraiment les enfants du pays. Il n'y a plus cette confiance parce que, ouais, ben, en fait, tu étais 10 ans à l'étranger et tu viens voir qu'est-ce que tu as vu de ce qui se passe au pays. Et en fait, il y a ce décalage qui se crée. Et c'est pourquoi j'aimerais participer à justement créer des conditions beaucoup plus favorables au retour au pays.
C'est fascinant. Il y a un phénomène et je peux complètement... ça résonne avec moi parce que c'est vrai qu'en partant 10 ans ailleurs, quand on revient en Guadeloupe, on se sent, comme tu dis, donc aliéné. Mais quelque part, le pays où on est, donc toi, tu es aux Pays-Bas en ce moment, est-ce que tu te sens être des Pays-Bas ?
Non. On est un peu les voyageurs du monde. Et en fait, on a... Tu m'excuses du terme, on a un peu le cul entre deux chaises. C'est vraiment ça, en fait. On est en plein océan Atlantique, en fait. L'idée, c'est de retrouver sa place, en fait. C'est vraiment ça. Et donc, du coup, de se la créer.
Attends, ça me parle beaucoup, parce que c'est quelque part prendre ses responsabilités ou juste se dire, j'ai une idée, je veux le faire, ou je vois, je suis observateur de mon environnement, du monde, Il y a quelque chose qui me convient pas, je pense que je peux contribuer. Et donc, quelque part, ta démarche avec vos partenaires, c'est notamment Arnaud, William et je ne connais pas tous, et Karine, c'est ça, c'est de faire sa part et de pouvoir modeler quelque chose de nouveau, d'utile pour tous. Il y a une question qui je pense qu'on peut poser. Puis après, je sais que tu avais une envie de faire un workshop, quelque chose de plus, un atelier, quelque chose de plus participatif. On va pouvoir le faire. Oui. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent en direct. Mais avant, la question, c'était pourquoi les jeunes talents, quelque part, partent de Guadeloupe ? Oui. Tu disais que ce n'est pas que dans la tête. Il y a aussi une dimension kinesthésique à ça. Si tu peux me corriger, mais si on parle de ça, de la fuite des talents, une bonne question à se poser, c'est peut-être à la base, pourquoi les gens partent ?
Oui, il y a pas mal de raisons. Une des premières raisons, c'est, comme je t'en parlais plus tôt, c'est les parents qui disent, il faut aller voir ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains problèmes, certaines situations difficiles sur l'île et ils ne veulent pas forcément que tu sois exposé tout le temps à ça. Et ils veulent que tu sois beaucoup plus curieux, que tu ailles voir à l'étranger avant de te dire « je vais rester en Guadeloupe ». Ensuite, il y a un manque peut-être de comment on dit, role models, de modèles.
Ouais.
De modèles qui… d'exemple, exactement. Qui on fait le retour au pays vraiment en fait. On connaît pas mal de personnes qui ont réussi, de Caribéens qui ont réussi et qui sont restés à l'international, mais on n'en connaît pas tant que ça qui sont revenus. Et ces exemples, en général, ça reste quand même aussi plutôt dans le domaine sportif. Et dans d'autres domaines, c'est assez rare, en fait. Et spécifiquement dans le design, du coup, qui est un domaine que je connais plutôt bien et qui n'est pas tant connu que ça dans la Caraïbe. On connaît beaucoup le Hello Arnaud de Toulouse.
Yes. Yes. Salut Arnaud.
On connaît pas mal l'art dans la Caraïbe, mais le design est encore assez méconnu. Et l'apport que le design pourrait faire sur le territoire caribéen est juste énorme. Et en fait, c'est ce qu'on essaie d'implémenter dans la zone. Ouais.
Mais du coup, et si c'était différent, et si ça se passait autrement, quand on parle d'éducation dans la Caraïbe, qu'est-ce que ça ressemblerait à quoi ? Enfin, c'est une question qu'on peut se poser. Et si c'était différent, comment à partir de cette question, comment on navigue ensuite parce que juste oui. avant de te laisser répondre, il y a Sabrina qui dit « Certes, l'apprentissage des langues est mal géré. » Donc, ça, elle fait référence à la différenciation entre les îles anglophones et francophones dans la Caraïbe. Comment rectifier le tir et faire en sorte que les jeunes soient décomplexés et envie de s'ouvrir?
Alors, c'est une excellente question et j'ai évidemment, je n'ai pas la science infuse pour ça, mais j'ai récemment étudié une thèse d'une jeune sud-américaine qui a étudié le territoire caribéen. Je vais te retrouver le titre. C'est vraiment à lire. C'est Heritage Education, Memories of the Past in the Present Caribbean Social Studies Curriculum. Donc, pour une petite traduction.
Si j'ai le lien, parce que j'avoue que je n'ai pas retenu tout le...
Attends, je vais trouver ça.
Tu peux le copier dans le chat qu'on a tous les deux, puis je vais le partager avec tout le monde. Il y a Jen, en attendant que tu trouves le lien, je salue Jen qui commente à nouveau sur YouTube et qui nous dit « Les jeunes talents qui ont réussi ne prennent pas assez sous leurs ailes les jeunes caribéens. » Alors, en l'occurrence, Alvin va nous parler d'un exemple... d'un Caribéen qui veut créer justement une structure et engager un mouvement. Alors, ce dont tu parles, Alvin, donc... Oui.
Donc, en fait, dans cette thèse, la jeune chercheuse, elle part justement en fait de la sensibilité du professeur dans la zone Caraïbe, en tout cas, parce qu'elle est allée à la recherche, à la rencontre des professeurs caribéens. La sensibilité du professeur a créé l'ouverture d'esprit de ses élèves, et notamment par rapport à l'histoire et l'héritage de commun entre les îles caribéennes, parce que on a un passif précolombien, post-colombien, et il y a une sorte de césure qui se fait justement avec les îles anglophones ou hispanophones et francophones par rapport à ce passif. Et l'idée, c'est en utilisant beaucoup plus les sciences sociales et l'héritage, avec par rapport à ce point de vue, ben, d'arriver à enseigner les langues, en fait. Et elle le fait très bien, elle en parle très bien dans sa recherche.
Je trouve ça fascinant, parce qu'on recevait Dominique Vénéré, qui a été très gouverneur au Rotary pendant un moment, et qui a cette conscience de la Caraïbe, et en discutant avec elle, elle nous a appris que il y a souvent l'adage penser global, agir local, et elle nous disait oui et non, en fait, penser local d'abord pour réaliser les richesses et les particularités, la complexité de l'environnement qui est autour de nous. C'est et ce dont tu parles, c'est vachement intéressant dans ce sens où on prend conscience, mais qu'il y a un patrimoine, et peut-être que les Caribéens, quand on parle de ces jeunes-là, il y a un intérêt à les éduquer sur le patrimoine.
Ouais,
pour comprendre, ok, aujourd'hui, il y a socialement dans la Caraïbe, dans le climat actuel, dans l'environnement actuel, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bagage-là, avec ce passé?
C'est
très pertinent.
D'ailleurs, c'est fait beaucoup plus dans les îles anglophones, dans leur curriculum. Ils ont la science sociale est beaucoup plus développée. Donc, ils abordent un peu plus beaucoup plus ces thèmes-là que dans les îles francophones, par exemple. Donc, c'est un décalage qu'il y a déjà pour créer des connexions entre les îles. Et ensuite, ben, justement, le rapport à la langue, je pense qu'on a étudié, on a hérité beaucoup du système d'apprentissage français qui est beaucoup basé sur l'écriture et beaucoup moins sur l'oral. Alors qu'on a des îles juste à côté, comme la Dominique, où on pourrait interagir avec des gens en anglais très facilement. En fait, ce qui me met aussi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, notamment avec cette recherche, c'est que en novembre dernier, j'étais à Doha, au Qatar, dans le cadre d'un festival sur l'apprentissage, justement, pour voir comment ils apprennent là-bas. Dans le Middle East, en Moyen-Orient. Et Et un des intervenants, c'est un maître de Qigong. Alors, c'est un art martial coréen. Mais donc il est maître, enseignant ou mentor d'art martial, exactement. Mais il est de Doha. Et en fait, il a dit quelque chose qui est resté dans mon esprit. Il a dit qu'en fait, ici, on a une culture de la danse, mais que ça ne reflète pas du tout dans notre éducation. En fait, on est complètement déconnecté et on se base sur des modèles préconçus qui nous ont été donnés. Mmh. Et on a tendance juste à trop regarder ce qui se fait dans les grandes villes, dans les grandes puissances, comme on aime les appeler, donc les modèles occidentaux. On a trop tendance à recalquer leurs modèles sans comprendre le contexte, en fait. Donc, on prend juste sans vraiment savoir quoi prendre et quoi laisser. Et il en parlait très bien et ça résonnait. Pourquoi, avec une identité caribéenne où le mouvement du corps, enfin la danse est très présente, je pense que c'est très intéressant de combiner l'apprentissage à travers le corps avec l'éducation, en fait.
Mmh. D'ailleurs, il y a Dominique Vénéré qui nous suit en live et qui nous salue. Oui. Donc, salut Dominique, ça me fait plaisir de te voir ici. Donc, tu parlais de connexion. Donc, j'entends l'idée première qui est de prendre en compte le bagage culturel, l'héritage, en fait, si on utilise ce mot.
Je précise que ce n'est pas du rhum, d'ailleurs.
C'est de l'eau. Alvin, pas de l'eau.
C'est de l'eau.
D'ailleurs, Alvin, il y a Yolande qui a fait une remarque au début tout à l'heure. Elle dit, mais aux Pays-Bas, on n'est pas en confinement ? Ça, elle te voit à l'extérieur.
Oui. Je suis à l'extérieur de mon studio. Donc oui, je suis en extérieur, intérieur. Mais en fait, aux Pays-Bas, c'est un peu différent. Le confinement est beaucoup plus... en fait, ils disent pas aux gens, vous restez chez vous, sinon vous prenez des amendes. Mais ils disent aux gens, on vous fait confiance pour que vous restiez chez vous. Donc restez chez vous. Okay. Ça fonctionne un peu différemment.
J'entends. Donc tu parlais de connexion entre les îles et je sais que, encore une fois Alvin, même si aussi toi tu as des questions à poser aux gens qui nous écoutent, n'hésite pas.
Clairement,
oui. Et les gens, vous qui nous écoutez, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, n'hésitez pas à écrire vos questions en commentaire, on regarde ça de très près pour les faire remonter à Alvin. Et je crois qu'une des pistes serait peut-être des partenariats ou justement de favoriser les échanges entre les îles. Et je rajoute, il y a Dominique qui rajoute ici, totalement d'accord donc avec l'idée de prendre en compte le bagage, mais ça nécessite de déconstruire les esprits. Il faut déconstruire les croyances et les habitudes parfois.
Oui, et ça passe par ce dont on parlait aussi, d'apprentissage du patrimoine en fait. Aussi, apprendre vraiment de là d'où on vient, ce qui fait vraiment notre culture et que ce ne soit pas complètement aliéné par rapport à ce qu'on apprend à l'école, justement. Et déconstruire les esprits, oui, pour comprendre nos valeurs et nos forces en tant que Caribéens. Et même si on les comprend, en fait, en voyageant, en étant à l'extérieur, c'est là que tu comprends vraiment. En fait, en fait, c'est ça qui est bien dans la Caraïbe, c'est ça qui manque ou exactement. C'est en faisant ce pas à l'extérieur dont tu t'en rends compte, que tu prends de la perspective et que tu t'en rends compte des choses. Comme Dominique dit, faire une déconstruction des esprits et repenser le but même de l'éducation, je pense que c'est très très important. C'est important. Après. En tant que designer aussi, je suis pas là pour être vraiment l'expert du sujet, mais je suis là pour poser les bonnes questions. C'est pourquoi je veux aussi demander à l'audience, et si ça se passait autrement, comment ça se passerait? Donc Dominique, elle propose de déconstruire les esprits. Comment ça se passerait en fait, cette déconstruction des esprits, par exemple?
Donc n'hésitez pas, ouais, si vous pouvez répondre en commentaire, on regarde ça. Alvin, lui, il anime des ateliers, des workshops, justement pour accompagner dans ce processus de design en utilisant les outils que le design amène.
Ouais.
Et je sais que Alvin, tu as préparé des post-it, ouais, voilà, super, ouais, avec toi. Donc on peut prendre 15 minutes si vous voulez.
Ouais.
On peut faire quelque chose d'interactif, de participatif. Puis pour ceux qui nous écoutent juste avec l'audio en podcast après le live, je ferai mon possible pour commenter pour décrire ce qui se passe à l'écran ici. Donc si ça devait se passer différemment, comment ça se passerait? On a une première réponse de William qui nous suit sur YouTube et qui dit, pour moi cela commencerait par des médias et un partage d'informations plus positives.
Exactement. Ça, c'est une très bonne, très très bonne remarque. On a tendance à stigmatiser souvent le territoire par rapport aux choses qui se passent mal. Et je pense pas que ce soit purement caribéen. Je pense que c'est assez international, mais ça se ressent très très fortement dans la zone caraïbe parce que la diversité des médias est moins importante. Mmh. Et du coup, l'impact qu'ils ont est beaucoup plus fort. Et donc, avoir des mots ou des messages qui sont moins positifs, ça impacte forcément beaucoup plus sur ce truc-là.
Donc, peut-être mettre en avant des réseaux qui facilitent les échanges, de mettre en valeur les échanges entre les îles de la Caraïbe, les pays de la Caraïbe. Il y a Arnaud aussi qui dit « Je trouve dommage que l'on ne partage pas assez entre les îles de la Caraïbe, car on est riche de diversité dans la langue et aussi culturelle. Pourquoi attendre d'arriver hors de la Caraïbe pour le faire ?»
Et oui.
On a parlé de ça, de la langue et de la culture, l'héritage.
Ouais. On a. Alors, il y a des structures qui sont en place, des structures politiques notamment, comme l'OSCS ou le CARICOM, qui visent à faciliter les échanges entre la Caraïbe. Mais un des soucis avec ce genre de structure, c'est que très souvent, ça met du temps. Ce sont des grosses machines qui mettent du temps quand même à avancer, à mettre en place ces échanges. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à des protocoles économiques et politiques assez lourds.
Ouais.
Alors qu'on pourrait avoir des initiatives beaucoup plus souples et beaucoup plus directes, en fait, entre des écoles ou entre des partenaires, des entreprises, des partenaires sociaux, par exemple. Donc, il y a des possibilités. Ça me rappelle lorsqu'on organisait Open Lab aux Pays-Bas.
Oui.
Le cours qu'on a mis en place à l'université de Leuven. Ça fait pas mal d'années qu'ils essaient de mettre en place un partenariat entre les deux écoles, mais tout ce qui est propriété intellectuelle, budgétisation, etc. Ça met énormément de temps. On était un groupe de 8 étudiants. On allait voir un groupe de 8 étudiants de l'autre université et on a mis ça en place directement, en fait.
Yeah, ouais.
D'étudiants à étudiants. Et on a convaincu les mentors des bienfaits d'une collaboration.
Ouais, je trouve ça génial. Je suis convaincu de l'importance de la notion d'entreprendre.
Oui.
Pas nécessairement dans l'idée qu'on se fait de l'entreprise, mais plus au sens premier du terme, qui est d'observer, de voir un problème et d'amener une solution et de le faire.
Donc c'est
une entreprise, on réunit des... Effectivement. Ça, c'est une partie aussi qui est intégrée au design, je pense, c'est la notion, il y a des boucles de rétroaction, des feedbacks.
Exactement.
Qui sont. Alors, je vais juste continuer aux commentaires parce qu'il y a plusieurs personnes qui réagissent et qui répondent à ta question, Alvin. À quoi ça ressemblerait si ça devait se passer autrement. Donc, oui. il y a Dimitri Zéphir ici, déconstruire les esprits dès le plus jeune âge, en transformant l'idée même de pédagogie, transmission au sein des écoles.
Et oui, hello Dimitri, c'est un très bon exemple. D'ailleurs, je veux faire une petite dédicace à Dimitri qui est un des cofondateurs de DAC et Zephyr. C'est un studio de design développé un basé à Paris, qui intervient aussi dans la Caraïbe avec leur recherche Éloge créole, à voir vraiment absolument. Ils ont justement donné des workshops dans des écoles martiniquaises. Hopefully, fort heureusement aussi dans d'autres îles de la Caraïbe, où ils apprennent justement à des jeunes enfants à repenser le monde qu'ils ont autour d'eux, en fait, avec des méthodes de design, à comprendre, ben, en fait, qu'est-ce qu'on voit autour de nous, qu'est-ce qui fait l'essence de notre territoire, les matériaux, les senteurs, les façons de penser.
Ce que j'entends, Alvin, quelque part, c'est quand on parle d'éducation aujourd'hui, on a moins besoin de savoir et de connaître plein de choses qu'on fait, parce que l'information est là, elle existe, mais on a besoin de savoir comment poser des questions.
Comment poser des questions se poser. Exactement, exactement.
C'est ce que le design nous apporte, j'entends.
Exactement. C'est un
Alvin, on a un problème avec ton micro. Est-ce qu'il est bien branché?
Juste là.
Ouais, c'est bon. On entend.
C'est bon. Ok. Le design, c'est un des points clés du design, c'est savoir comment poser des questions. Et je pense qu'en fait, dans le. Alors, je lis le commentaire.
Donc, Sabrina nous dit, les jeunes ont de l'audace et vont vite. Les lenteurs administratives les freinent considérablement et démotivent.
Et oui, et c'est pourquoi l'esprit d'entreprendre, être un entrepreneur, c'est vraiment une des étapes clés pour arriver à contourner toutes ces lenteurs administratives. Et je disais juste avant que oui, le design amène cet art de savoir poser des questions et de réitérer le processus en ne se basant pas forcément que sur des préjugés et des idées, mais vraiment en étudiant, en allant vers les gens, en questionnant, en faisant des tests, du prototypage, et ensuite en revenant, en faisant des tests utilisateurs, en améliorant, en reposant des questions. C'est cette idée de boucle qui amène
un résultat. Est-ce que tu es d'accord? Il y a d'autres commentaires, je pense, qui sont arrivés en réponse à ta question tout à l'heure. Si tu veux, on les lit.
Dis-moi, je note.
Donc, effectivement, on a vu le commentaire de Dimitri. Dimitri, merci beaucoup pour avoir réagi. Oui. Il y a Sabrina qui nous dit, l'apprentissage de nos environnements proches pour s'approprier nos ressources locales et être plus fort et confiant et aller s'aventurer à l'extérieur. Donc ça, c'est une vision de Sabrina en réponse à la question, et si ça se passait autrement, et si les îles de la Caraïbe, les pays de la Caraïbe étaient plus connectés, comment on peut repenser l'éducation. Ouais. On a aussi un commentaire de William, je vais le lire parce qu'il nous mentionne, alors qu'il y a beaucoup de jeunes qui réussissent et font de belles choses, Valentin et Alvin sont des exemples parmi d'autres. Merci beaucoup. Oui, oui, oui. Il y a Karine qui nous dit qu'il faudrait aussi que les jeunes puissent imaginer des opportunités de carrière aux Antilles dès leur plus jeune âge.
C'est très, très, très pertinent.
Oui, je suis d'accord.
Très pertinent. On parle énormément d'aller à Paris, d'aller à New York, d'aller à Montréal, d'aller dans tous ces endroits. Et en fait, on n'incite pas assez les jeunes à voir les opportunités directes en fait, qu'ils ont autour d'eux.
Mais je pense qu'il y a une composante importante ici, parce que nos expériences, nous, on a vu les opportunités une fois qu'on était parti.
Et oui.
Personnellement, ça m'a pris au moins 3 ans avant de voir les opportunités qu'il y avait en Guadeloupe, pour ma part. Parce que les 3 premières années sont des années d'émancipation, où j'apprends, je découvre de nouvelles choses. Et,
exactement.
Et sur les 3 premières années, l'extérieur est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus nouveau. Et ça prend, personnellement, je continue de parler juste pour moi, Alvin pourra partager son expérience, mais en tant que jeune de Guadeloupe qui a quitté, les premières années sont... C'est une maturité qui se construit, et c'est après aussi, en rentrant dans une vie plus professionnelle, plus active, où on se rend compte de la richesse en fait de nos territoires Guadeloupe, Martinique et la Caraïbe en général. Donc c'est là où la notion de connexion et connexion aux autres îles et d'ouverture, je pense, est importante pour des jeunes qui restent dans la Caraïbe, Mais que la Caraïbe, c'est la notion de, d'île, en fait, disparaisse et que ce ne soit pas limité par cette notion de, d'île et d'isolement, en fait.
Oui, exactement, exactement. Qu'il y a beaucoup plus de liens. Après, je pense que, bien sûr, il y a beaucoup d'entre nous qui désireront partir et découvrir d'autres choses. Pour certains, c'est dans notre nature vraiment d'aller découvrir autre part. Mais quand on revient, d'avoir les opportunités, ça, ça pose problème. Et après aussi, pour ceux qui restent sur le territoire, d'avoir d'autres opportunités qui ne sont pas forcément des choses qui existent déjà, qui sont déjà préétablies, des modèles qui ne sont pas encore adaptés au contexte actuel, en fait. Et c'est ça qu'il faut, pour moi, c'est ça qu'il faut se pencher aussi. C'est même au sein du territoire, quand les jeunes restent, ben en fait, créer ces formes d'entrepreneuriat et d'entreprise qui permettent d'être beaucoup plus réactifs par rapport au contexte. En fait.
J'entends. Alvin, si tu veux bien, on continue le workshop, il nous reste quelques minutes. Oui. Et il y a un commentaire ici que je relève, alors qui n'est pas une question, mais plus une remarque de Ambre, que je salue d'ailleurs. La connexion inter-île existe peu, c'est un réel frein. C'est plus simple d'aller à Montréal qu'à Antigues, par exemple. Et pour ceux qui ne savent pas, Ambre est pilote de ligne, donc elle est très bien.
elle sait ce qu'elle
fait. Elle sait de quoi elle parle. Il y a Dominique qui réagit aussi et qui dit déconstruire les esprits, c'est se battre avec les politiques pour faire accepter que nous puissions associer un enseignement basé sur la connaissance de notre territoire aussi.
Oui. Alors, les politiques sont un rôle assez important, oui, dans l'évolution du territoire. Après, moi, j'aimerais un peu qu'on change notre vocabulaire et qu'on ne parle pas trop de se battre avec les politiques, mais de créer une synergie. Je pense que c'est pourquoi c'est important de savoir impliquer vraiment tous les acteurs dans l'opportunité, le projet qu'on essaie de développer. Je pense que plus que de voir ça sous la forme d'un combat, je pense que sur des années kinesthésiques, j'aime bien parler de danse et vraiment d'avoir une danse collective où chacun amènerait vraiment ses pas et influencerait tout le monde et permettrait de créer une chorégraphie collective, en fait. L'idée, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est déjà de changer son esprit, c'est aussi changer la manière dont on parle des situations, on parle des problèmes, et ensuite voir ce qu'on peut faire avec les acteurs, bien évidemment. Certains projets démontrent que au-delà des sphères politiques, il y a des choses qui se passent, et c'est possible. Après, avoir l'appui des sphères politiques, ouais. Ça aide énormément.
Je pense qu'il y a un message qui est... C'est notre conviction aussi avec... c'est ma conviction et celle également de HumansLink. Puis Alvin, tu as un bel exemple de ça avec tes partenaires et le projet We Are The Whistle. C'est le gouvernement est important. Ils ont un rôle à jouer qui est non négligeable. Maintenant, il y a cette notion de prise d'action et de responsabilité et chacun peut faire. Et je pense que chez nous, plus spécifiquement en Guadeloupe et en Martinique, il y a un fort jugement où les gens vont te regarder. Est-ce que tu vas tomber? Est-ce que tu as honte? Parce il y a tout ce jeu-là. Et ça me fait penser, il y a un commentaire que je veux mettre en avant, je pense que c'était... c'est William, alors je ne le vois plus dans le feed, mais en gros, il disait qu'il fallait mettre en avant la notion de petits pas et de favoriser en fait les prises d'initiative, mais en félicitant les petites victoires, quoi, et de découper le processus en petites étapes,
ouais.
pour faciliter la prise d'action et pour dédramatiser quelque part. William, si tu entends ce que je viens de dire, tu peux corriger parce que j'ai plus ton commentaire sous les yeux, mais je pense que c'est l'essence de ton message.
Je pense qu'on a un rapport à l'échec qui est assez erroné de par le système éducatif et l'histoire française, je pense. De manière générale, de par le système éducatif, mais en France aussi, puisqu'il est, il est assez élitiste, les échecs ne sont pas valorisés, j'aime dire, et je pense que c'est aberrant, en fait. Parce que c'est vraiment en faisant des erreurs qu'on apprend, et c'est ça que l'entrepreneuriat enseigne aussi.
Est-ce que, en fait, j'ai dit William, mais c'était Arnaud Archimède. Excuse-moi, Arnaud. Okay. Effectivement, donc j'ai pu retrouver le commentaire, étant donné que je cherchais le bon prénom. Donc, okay. Il disait accompagner pour donner vie aux idées, les tester et les enrichir avec une logique de petits pas. Ça dédramatise le passage à l'action.
Exactement.
Moi, j'appuie ça à 100%. Bravo.
100%. On sent le designer dans l'air. Ouais. Non, c'est important de favoriser les petites victoires, de dédramatiser les petits échecs. Je pense que l'échec, c'est l'échec est un diplôme, comme Idrissa Barkhane dit. Pour moi, c'est en faisant qu'on apprend, très souvent. C'est en faisant qu'on apprend. Et on oublie que la plupart des gens qu'on regarde comme ça, sur qui on prend exemple, ils ont eu énormément d'échecs. Avant de... exactement. Quand je me plante, je pousse. Ils ont eu énormément d'échecs avant de pouvoir être ce qu'on appelle des modèles, des role models. Donc, réinterpréter ce qu'est l'échec aussi est très, très important dans l'éducation qu'on donne de manière générale, pas seulement dans la carrière.
Effectivement. Alors, continuons dans les commentaires, il y en a plusieurs. Il y a Yolande qui disait « Il manque les universités et les écoles spécialisées. » Et Dominique qui répond à ce commentaire en disant « Les universités existent dans la Caraïbe, mais on ne vend souvent pas ces destinations à nos jeunes. » Je pense qu'il y a des deux, parce que Alvin, tu es bien placé pour savoir qu'en dans la Caraïbe, il n'y a peut-être pas d'école de design ou qui enseigne le design comme ce que toi, tu as pu voir à l'extérieur.
Oui. Alors oui, il y a des formations, il y a des universités dans le... Je vais revenir au commentaire d'Astrid, hello Astrid. Je vais revenir à son commentaire après. Mais oui, il y a des universités qui existent dans la Caraïbe, mais pour des formations assez classiques, plus classiques, disons. Donc, pour apprendre la médecine, par exemple, jusqu'à un certain niveau. Les juristes pour être avocat ou des formations qui sont un peu plus considérées comme normales, on va dire, pour l'opinion publique. Formation un peu plus créative d'art et de design, c'est beaucoup moins vu, beaucoup moins en vue du coup. Et il n'existe pas encore de structure pérenne qui permette ça. Et je trouve ça dommage parce que cette idée d'entreprendre et d'enseigner les méthodologies dans l'entreprise à travers le design, par exemple, ça pourrait être très bénéfique pour le territoire.
J'entends. Normalement, la pause café, on l'a fait une heure. Et ça s'arrête maintenant, mais je sais qu'on a plusieurs autres questions qu'on voulait poser. Puis je vois les gens qui sont réactifs sur le live. Donc, si vous êtes d'accord, vous pouvez me dire en commentaire, on peut continuer un petit peu. Dites-le nous sur Facebook et sur YouTube en commentaire si vous voulez qu'on continue. Et je profite en attendant, il y a d'autres commentaires du coup qui sont remontés. Puis Alvin, tu me dis par rapport à l'atelier que tu voulais qu'on fasse, si on a d'abord posé la question et si ça se passait autrement quant à l'éducation à l'échelle caribéenne. Il y a eu plusieurs éléments de réponse qui sont arrivés. Est-ce qu'on peut poursuivre avec la même question? Est-ce que tu as d'autres questions?
Comment faire? Est-ce que on peut continuer, on me dit. Comment faire en sorte que de réaliser ces idées qu'on a eues, en fait. Il y en a certains qui ont proposé de déconstruire les esprits, d'enseigner aux enfants la déconstruction des esprits. dès le plus jeune âge, de favoriser l'échange inter-île. Comment concrètement cela pourrait se matérialiser en fait?
C'est la question que tu nous poses. Hein.
La question
comment,
que je...
comment concrètement ça peut se matérialiser? Il y a Hugo Dabin qui a posé une question. Est-il possible de s'émanciper des contraintes du financement public pour pérenniser ces initiatives sociales? Comment les viabiliser, autrement dit?
C'est une excellente question, Hugo. Oui, c'est totalement possible. Après, ça vient avec beaucoup d'éducation, beaucoup d'apprentissage des méthodes entrepreneuriales. Il y a beaucoup de risques qui s'y prêtent, et c'est pourquoi Arnaud, par exemple, parlait favoriser les petits pas et de dédramatiser les échecs pour permettre de se lancer. C'est totalement possible de réunir des collectifs autour d'une certaine initiative. Mmh. Et par exemple, le principe même d'une association, c'est très fort, et je pense que à l'échelle caribéenne, ça pourrait être encore beaucoup plus fort. En
fait. Ouais, il y a une notion. On discutait en dehors du live, et tu sais qui moi me tient à cœur beaucoup, c'est la notion de synergie.
Oui.
Et donc on parle beaucoup de gagnant-gagnant, mais là ici c'est d'apporter un troisième pilier qui est le gagnant-gagnant-gagnant. Mmh. Et on crée des partenariats qui forment des cercles vertueux quelque part et qui s'entraident les uns les autres. Il y a William qui propose de créer un média caribéen, par exemple. Donc, il y avait l'idée de renforcer la connexion, les échanges, pardon, entre les différentes îles et aussi de mettre en avant, par l'information. Ce qu'on consomme comme information définit aussi notre réalité. Il y a une manière... Moi, je peux imaginer que le média caribéen peut être aussi une manière de communiquer sur les différentes filiales et universités et spécialités qui sont disponibles dans la Caraïbe. Donc, c'est très pertinent. Venant de William, vu les commentaires qu'il pose depuis tout à l'heure, ça ne peut qu'être pertinent.
je tiens à faire un petit partage de EduCaribe, d'ailleurs, Laurine Bozin qui justement a un média qui relaie un peu sur les opportunités universitaires dans la Caraïbe. Donc EduCaribe.com, je crois que c'est edu-caribe.com. Je peux le voir dans le chat et suivez un peu ce dont elle parle. Il y a des médias qui le font. Après, il faut qu'on les relaie, il faut qu'on les fasse grandir entre nous, en les soutenant.
Alors, il y a... Excusez-moi, moi, je suis en train de lire tous les commentaires qui rentrent. Il y a Dimitri qui réagit. Il existe une très belle formation d'art appliqué que j'ai suivie au lycée Raoul Georges Nicolo Abaster. Est-ce qu'il manque un R ou c'est...
Non.
Les formations artistiques existent, elles sont souvent peu connues. Et oui, on revient à ça. Il y a, que ce soit une école, une université ou un programme, certaines filières ne sont pas mises en avant. D'ailleurs, il y a Karine Roger qui réagit et qui dit « Je pense que certaines filières sont favorisées parce qu'on ne voit pas le potentiel qu'on peut trouver dans nos îles par rapport aux filières plus... sur les filières plus atypiques. Donc, on va favoriser les filières plus classiques par manque peut-être de perspective ou de...
Eh oui.
Il y a Yolande qui propose, il y a le livre de Paul Watzlawick, Comment réussir à échouer et faire en sorte que l'échec devient une expérience. Puis ça revient à ce qu'Alvin disait, les exemples qui peuvent inspirer qui peuvent tous nous inspirer, puis aussi dans la Caraïbe, nous montrent que c'est par l'échec qu'on apprend. Et il y a plusieurs personnes, il y a une expression en anglais qui dit « fail forward », donc c'est échouer en avant. Ouais. On tombe, mais en avant, on apprend toujours.
Ça, c'est je pense aussi que ça me fait penser à... je discutais avec un ami, Mathieu, un ami parisien l'autre jour. On parlait de la situation du Covid, justement, et du confinement, parce que y a énormément de mal-être par rapport à ça. Et je lui disais, en fait, que dans les territoires caribéens, en fait, quasiment tous les ans, nous, on a cette période de confinement parce qu'on a des cyclones qui arrivent. On a des tremblements de terre, on a ces risques naturels qui font en sorte qu'on a une sorte de résilience naturelle au grand changement. Et je pense que ce fail forward, cet esprit de, ben en fait, on est résilient par rapport au plus grand phénomène qui nous arrive. Je pense qu'il est beaucoup plus, il est très inné en nous et il faut utiliser cette capacité dans la manière dont on s'éduque et on développe les jeunes caribéens, quoi.
Effectivement. Puis il y a même une autre forme de résilience, c'est dans la Caraïbe par rapport aux grandes villes ou à certains pays où les jeunes ont envie d'aller. Il y a certains dysfonctionnements. En Guadeloupe, parfois il y a des problèmes d'eau, c'est bien connu depuis longtemps. Mais je veux pas parler de ça en soi. Je veux parler du fait que on connaît. Il y a cette réaction de débrouillardise quelque part, de résilience qui s'installe. Et donc en fait, dans la grève, il y a une forte résilience qui est devenue presque innée.
Ouais.
Contrairement à certains pays ou territoires où il y a beaucoup plus abondant. Et donc en fait la difficulté, ces états de crise, que ce soit un cyclone ou que ce soit des dysfonctionnements dans le fonctionnement de nos îles, nos pays, ça fait germer cette résilience.
Exactement. Et il faudrait nourrir justement dans la manière dont on enseigne et dont on éduque nos jeunes caribéens, il faudrait nourrir l'appréciation de cette qualité, en fait. Je pense.
Il y a Arnaud Archimède ici qui dit: le design est souvent limité à son aspect créatif, sans parler de son impact social, économique, à petite, mais aussi à grande échelle. Il faut le montrer sous d'autres aspects.
Eh oui. Très, très, très pertinent.
Moi, j'entends, c'est le design, c'est pas la couleur de la boîte ou la forme de la voiture. C'est comme le marketing, c'est pas une publicité. Ce sont des mots qui malheureusement ont été réduits à certains morceaux de ce que ça veut dire vraiment. Mais pour le design, Alvin nous l'a montré, c'est surtout une approche à notre environnement. C'est donner du sens pour résoudre un problème. Donc
ça, c'est vraiment adresser une situation, que ce soit une idée, un constat ou un problème, et vraiment. Plonger dans les possibilités de cette situation, en fait. Exactement.
100%. Il y a Amélie Roussel que je salue.
Hello Amélie.
Et qui nous dit: hello, j'arrive en cours de route. Avez-vous parlé de partenariat interuniversitaire? Alors, on a parlé de partenariat, mais...
Ah, partenariat interuniversitaire, je vais le noter.
C'est une très bonne... C'est une question, mais on va le prendre comme une contribution.
Ouais.
C'est pertinent aussi.
C'est...
Institutionnel déjà en place.
En fait, j'en parlais tout à l'heure par rapport à l'échange à Eindhoven que notre groupe avait fait avec l'autre université. Je pense que ça doit venir aussi des étudiants. Je pense que les universités sont très réticentes à mettre en place cela parce que ça demande énormément d'administratif et de processus qui n'est pas forcément facile pour elles, ce que je peux concevoir. Mm-hmm. Mais le fait que ce soit mis en place par les étudiants, je pense que ça facilite énormément le process et qu'ils prennent l'initiative d'échanger directement, de prendre contact directement avec eux-mêmes et d'ensuite le communiquer aux sphères administratives. Je pense que c'est l'idée même de l'entrepreneuriat et ça faciliterait l'échange. Après, avoir le temps de mettre ça en place pendant qu'on étudie, c'est une autre question. C'est,
Alvin, si tu veux, on prend trois autres commentaires et puis oui. on complète le workshop ici. Je trouve ça passionnant, on dépasse le temps le temps qu'on avait alloué pour ça. Donc, je vois ici, il y a Arnaud Bordelais qui pose une question que je trouve très pertinente, c'est comment créer cette pensée collective caribéenne sans pour autant rentrer dans un communautarisme et se fermer aux autres, puisque ici, on parle tout à l'heure, on parle d'ouverture surtout.
Ouais.
Est-ce que Alvin, tu as des éléments de réponse à ça? On peut le noter simplement?
Je le note. Alors, je pense que c'est la manière dont on va gérer les problématiques et les échanges qui va faire en sorte que ce soit pas communautariste ou que ce le soit ou non. Je pense que il y a des fois les gens ont besoin de se réunir pour échanger sur certains problèmes, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils sont communautaristes, mais qu'ils ont besoin d'une communauté. Par exemple, un groupe d'une minorité qui aimerait échanger sur certains problèmes de leur société. À leur échelle, ne veut pas dire forcément qu'ils vont créer une révolution contre l'oppression, mais ils ont besoin d'échanger entre eux. De la même manière qu'un groupe de femmes, par exemple, qui aimerait parler de problèmes qu'elles rencontrent au niveau sociétal, qu'on pourrait accuser de communautarisme, pour moi, ce n'est pas du communautarisme, parce qu'en fait, c'est se réunir pour confronter nos situations et essayer de trouver des solutions.
Bien entendu. Il y a Jen qui nous propose une autre idée qu'on peut noter pour l'atelier ici. Elle dit il y a beaucoup d'initiatives caribéennes, mais on peut facilement s'y perdre. Donc elle propose de créer une seule coopérative avec plusieurs domaines, se fédérer pour être plus puissant.
Oui.
Donc il y a des mots-clés ici qui sont intéressants. Et d'ailleurs, Jen, tu demandais en commentaire de remettre le nom du livre. Donc, on a posté en commentaire, c'est « Comment réussir à échouer » de Paul Watzlawick. Excusez-moi pour la prononciation, mais c'est celui-là. Poursuivons.
Coopérative, on prend un dernier commentaire ?
On prend un dernier commentaire, oui. Peut-être deux derniers commentaires. Il y a Amélie qui revient et qui nous dit tout à fait d'accord. Il faudrait commencer par développer les assos étudiantes. Donc, c'est en réponse à ce que tu disais tout à l'heure, que les étudiants puissent prendre action eux-mêmes, en fait, et pas nécessairement attendre que l'université, que l'initiative vienne d'en haut, mais de prendre en main quelque part.
Exactement. C'est vraiment ça. Je pense que l'activisme ou l'entrepreneuriat, ça dépend de. C'est des choses qui sont très liées, mais c'est vraiment ça part vraiment de l'initiative collective.
Bon, ton micro, Alvin. Il y a un petit vérifie le branchement.
C'est bon. C'est bon.
Okay. Ouais, c'est bon.
Ok, super. Oui, donc je disais oui que ça part vraiment de parce qu'en fait plus les structures sont petites, plus il y a de souplesse dans les champs d'action. Mais après, fédérer et réunir ces structures peut permettre d'avoir un impact beaucoup plus grand dans le paysage social et économique ou culturel. Quoi.
Effectivement. Puis je rejoins même Hugo Dabin ici qui commente même sur le paysage politique, sur le plan politique,
et ouais.
de se regrouper et de fédérer. Peut-être nous permet d'avoir une approche plus, ce que propose Hugo, une approche argumentative sur le plan politique pour convaincre d'un soutien. Super. Alvin, par rapport à l'idée d'atelier que tu voulais, que tu voulais mener ce matin,
oui.
est-ce que tu as assez d'éléments pour nous emmener vers une conclusion éventuellement?
Alors la conclusion, ce sera pas vraiment une conclusion, c'est une conclusion qui est en continu et qui c'est un projet en continu, même pas qu'une discussion, mais un projet en continu.
Alvin, excuse-moi, je pense que ton micro, il y a un petit bruit. Ouais. Est-ce que sur l'ordinateur, c'est bien? Ok, super.
Ouais. Ok. Yep. Alors, donc je disais que c'est pas une conclusion pour faire une conclusion, mais c'est toujours un projet en continu.
Bien sûr.
Après, j'ai noté quelques éléments que je suis en train de.
Tu es en train de formuler.
Ouais.
Ok, super. Donc, on va regarder ça. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je rappelle, ici, c'est Alvin Arthur qui est designer kinesthésique et donc qui utilise les approches que le design nous donne sur la kinesthésie, donc l'étude du mouvement. Et donc, Alvin est guadeloupéen, mais aujourd'hui, ça fait 6 ans et demi qu'il est aux Pays-Bas. Et aujourd'hui, on s'est concentré particulièrement sur la notion d'éducation et ça fait plaisir de pouvoir échanger avec sur un sujet qui touche les jeunes caribéens qui sont partis à l'étranger et qui mènent des projets pour le futur de la Caraïbe, pour nos îles, pour nos territoires. Et avant de se quitter, on va aussi laisser parler Alvin, de sa vision. Ça vient du futur et notamment de We Are The Whistle, qui est un projet qu'il a démarré avec d'autres partenaires. On va revenir là-dessus juste avant de se quitter. Alvin, dès que tu es prêt.
Oui. 2 secondes.
Yes.
Alors,
Et We Are The Whistle, c'est... Je vais le montrer ici. Donc, j'affiche le lien. Donc, c'est wearethewhistletocollet.com. Et en fait, qui est une initiative à l'échelle de la Caraïbe, pas simplement des îles de Guadeloupe, Martinique. Je vous fais une petite avant-première avant que Alvin nous en parle. D'ailleurs, merci à tous pour l'engagement que vous avez aujourd'hui pour cette pause café. Ça fait vachement plaisir de voir autant de monde connecté et qui n'hésite pas à commenter, à intervenir. C'est super. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou un petit like pour nous encourager. Puis si vous êtes sur YouTube, même chose, un petit like. Puis n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Pour rappel, la pause café revient tous les jours de la semaine à 11h. Avec différents intervenants. Aujourd'hui, c'était avec Alvin, que personnellement, je n'avais pas vu depuis 10 ans. Ça me fait super plaisir. C'est,
c'est
incroyable quand même. La vie est bien faite. Alvin, est-ce que tu as des éléments à partager avec nous par rapport au workshop?
Alors, j'ai pris en compte toutes les inputs, comment dire, les contributions de tout un chacun, des contributions notamment liées à tout ce qui est groupement, créer
des liens, des connexions,
créer
avec
des liens et des connexions, créer donc enseigner par rapport l'enseignement par rapport à la mentalité et à la compréhension des forces du territoire.
Mmh.
Et ensuite la diffusion justement de ce message par rapport aux sphères médiatiques aux sphères politiques.
Super. Alors, donc ça se passe parce que là au début tu nous montrais tu avais des post-it.
Des petits
donc là tu as noté les différentes contributions qu'on a reçues.
Exactement. Donc j'ai je vais vous montrer une seconde. Hop là.
Donc, est-ce que tu peux décrire ce que tu fais, ton process pour qu'on puisse voir avec toi ton...
Désolé, j'ai pas de caméra.
Non, c'est OK.
Alors, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai marqué ce qu'on appelle les pain points. Donc, ce sont les
points de douleur.
Les points de douleur ou les choses qui peinent notre audience. Ouais. Ensuite, j'ai marqué... les opportunités qu'ils ont soulevées.
Ouais.
Et après, j'ai un peu catégorisé par...
par thème.
Enfin, par thème, exactement. Donc, c'est ça que je suis en train de... Hop.
C'est ça que tu es en train de formaliser pour nous. Alors, je profite pour passer un coucou à tous ceux qui nous suivent là. J'ai vu des commentaires intéressants que je n'ai pas pu relever tout à l'heure. Notamment Dominique Vénéry qui avait réagi. Voilà. Et qui disait, pour s'imaginer, il faut faire connaître les modèles qui ont réussi. Et pas que dans le sport. On adule toujours ce qui vient de l'extérieur et on fait abstraction de nos talents. Il faut pouvoir s'identifier. Très, très vrai. D'ailleurs, Alvin en a parlé un peu plus tôt dans les lives, la pause café d'aujourd'hui, où on constatait effectivement il y avait beaucoup de modèles dans le domaine de l'art et dans le domaine du sport. Mais et il y en a sûrement des modèles, mais ils sont moins connus quand il s'agit du design et de l'entrepreneuriat. Et donc, effectivement, on revient à cette notion de pouvoir mettre en avant pour faire connaître et pour faire arriver ça dans le champ des possibles de tous les Caribéens et Caribéennes qui pensent le monde de demain, quelque part. Il y a William qui nous dit « Je compte sur Dimitri et Alvin pour créer la première école de design dans la Caraïbe, en Guadeloupe. » Donc, pas tes mains,
allez, allez, allez. Le challenge est donné.
Exactement.
Dimitri, tu dis quoi à ça?
Effectivement, Dimitri qui est... C'est Dimitri Zéphir, n'est-ce pas?
Exactement.
Ok. Alvin, est-ce que tu as besoin de combien de temps?
Yes, je suis presque prêt.
La magie du live, on est en train d'être témoin d'un processus de design thinking en première.
Yes, yes, yes.
Il y a William qui disait, il y a des idées préconçues qui sont, ouais, les jeunes ne font rien, ce sont donc des fainéants. On entend ça et on voit ça à longueur de journée. Et donc, d'où l'importance d'un média positif qui met en avant justement les bonnes contributions et les succès, qu'on puisse célébrer les petites victoires quelque part.
Exactement. Exactement, je pense qu'il faut arriver à,
merci,
à faire confiance aux plus jeunes générations. Moi, de manière assez simple, quand j'enseigne justement aux gamins de 6 à 9 ans, ou à des étudiants ou à des lycéens.
Mmh.
L'idée, c'est de leur faire confiance dans aussi ce qu'ils sentent, ce dont ils ont besoin dans leur process d'apprentissage, en fait. Et les initiatives qu'ils veulent prendre. Donc, c'est vraiment ça.
Super intéressant d'intégrer des boucles de rétroaction. Donc, c'est des feedbacks, en fait, de permettre aux étudiants, mais même, Alvin, tu nous parles de 6 à 9 ans,
oui.
C'est vrai, de permettre aux gens d'être acteurs de leur éducation. Et oui. Pas juste de leur donner, mais aussi de leur demander.
Oui.
Et on a parlé tout le long de ce live de l'importance de pouvoir poser les bonnes questions. Et donc, on y revient ici.
Donc, il semblerait qu'on ait deux grands thèmes qui se...
en train de préparer un plan exceptionnel pour
Non.
Calvin est en train de nous
préparer. En fait, il faut que j'assesse un peu les différentes idées pour créer des thèmes, de grands thèmes. Et donc, du coup, il y a des thèmes qui sont très liés. Qu'il faut arriver à reformuler. Donc, j'ai fait de manière assez.
En tout cas, Alvin, dans les commentaires, ça fuse. Il y a William qui nous dit bon. Il y a Dimitri, pardon, qui dit bon, vous êtes déjà en train de travailler sur la première école de design de la Caraïbe qui est en Guadeloupe.
Ouais.
Les discussions ont déjà débuté. Donc, on a en avant-première des infos top secrètes ici. Et il y a William qui répond, vous savez déjà, vous pouvez compter sur moi pour ça.
Yes, 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 écoute.
Et il y a William qui a un autre commentaire pertinent et qui dit, il faut aussi permettre aux plus âgés de se faire connaître. et d'avoir confiance en leur talent.
Très
pertinent, parce que la vie s'arrête pas dès qu'on pense être vieux. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que je côtoie qui sont plus âgés que moi et qui sont dans cette tranche d'âge où ils pensent que c'est fini. Mais en fait, en 2020, l'espérance de vie sur les prochaines années va continuer d'augmenter. Donc en fait, même quand on a 50 ans en 2020, on est juste à la moitié de sa vie.
Oui.
Et donc, il y a encore la place pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Oui. Ok. J'ai fait une organisation, on va dire, des idées de notre audience de manière assez rapide. On va faire un screenshot qu'on pourra partager après à l'audience.
Est-ce que tu peux rapprocher un petit peu, juste pour quelques secondes. Attends, je vais te mettre en.
Exactement. Ok, super. Je ne sais pas s'il voit à l'endroit ou à l'envers.
Voilà.
On voit à l'endroit. Ok. Donc les deux thèmes qui ont semblé se dégager par rapport à la discussion qu'on a eue, c'est principalement les relais de communication. Donc clairement, il y a des choses qui se passent, mais comment faire en sorte de créer une synergie autour de tous ces projets. Et le deuxième thème qui semble s'être dégagé, c'est la réinvention des mentalités à travers justement toutes ces collaborations et l'éducation qu'on fait à tout type de tranche d'âge sur différents thèmes comme l'environnement proche, la compréhension de notre territoire, la déconstruction des esprits par rapport à cette idée qu'on a d'un idéal autre que la situation caribéenne elle-même, l'éducation des enfants et aussi la compréhension que les formations, beaucoup plus créatives, créatives et artistiques, ont une très grande valeur dans la réinvention des mentalités. Donc ça, c'est ce qu'on peut commencer à dégager de notre discussion.
Bon, super. Alvin, je trouve ça passionnant, ces discussions qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, la pause café passe tellement vite, il est déjà midi et demi. On a fait une heure et demie au lieu d'une heure. Est-ce que, avant de terminer, je voudrais que tu nous parles de l'objectif, quelque part, de la vision que toi et tes partenaires, vous avez pour la Caraïbe de demain.
Oui.
Et de We Are the Whistle, et comment tout ça s'imbrique quelque part.
Exactement. Alors, on est parti d'un constat, nous-mêmes en fait, en tant que jeunes Antillais, jeunes Caribéens, on avait besoin de comprendre comment revenir au pays en fait. Et du coup, on s'est dit peut-être qu'il y a d'autres Caribéens qui sont dans cette démarche. Et peut-être qu'on a une autre compréhension par rapport à eux de cette situation. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interviewé un panel de jeunes Caribéens, et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs dans notre désir de revenir sur l'île. Et donc, Whistle, c'est quoi ? C'est une plateforme crée des projets et qui aide à rendre beaucoup plus concret l'entrepreneuriat à travers les méthodologies du design. Sur le territoire caribéen, pas uniquement guadeloupéen, caribéen. Donc l'idée, c'est d'avoir des interventions concrètes du type du bootcamp qu'on a commencé à mettre en place, qui est censé se passer en août, mais qui va très certainement être reporté par rapport à la situation du Covid.
Oui, sûrement.
Donc, c'est quoi ? C'est 10 jours avec un ensemble de coachs, de mentors et d'intervenants locaux qui vont interroger un groupe d'entrepreneurs sur les problématiques liées au territoire. Les problématiques sont repenser l'écologie, La santé adaptive, j'ai des termes qui me viennent
Attends, je vais corriger ça avec.
Yes, adaptive healthcare, the thinking ecology et l'écotourisme. Donc, ce sont des trois problématiques assez fortes qui sont très souvent abordées sur le territoire caribéen, mais pas assez du point de vue entrepreneurial et design. Donc, on met ça en place. Et l'idée, c'est d'être ensemble avec une douzaine de participants pendant 10 jours à aller sur le terrain, faire de la recherche, amener, faire de l'idéation, prototyper, aller tester, revenir, ajuster. Et ensuite, présenter à des partenaires politiques et financiers pour qu'ils voient les possibilités que ça pourrait être d'intégrer ces méthodes et ces mentalités entrepreneuriales dans leur agenda.
C'est top. Donc, est-ce que vous êtes aussi sur, Instagram? Est-ce que j'affiche le site web, c'est wearethewhistle.com. Donc, il y aura plus d'informations, j'imagine, à venir suite au déconfinement pour savoir comment ça va se passer pour le bootcamp, les ateliers de 10 jours d'ateliers, en fait, pour repenser la santé, l'écologie, mais aussi le tourisme dans la Caraïbe. Oui. Et donner, si j'ai bien compris, des clés de réflexion à toute personne de la Caraïbe pour agir dans ce sens. Oui. Et effectivement, il y a Yolande qui propose de mettre en relation avec le réseau Entreprendre qui aide les jeunes entrepreneurs. Donc ça, si tu veux, Alvin, off caméra, je vais vous mettre en relation avec eux.
Yes,
c'est clair que Human Slink et Alvin et We Are The Whistle, il y a sûrement des belles synergies qu'on peut faire. Il y a sûrement une belle synergie qu'on peut faire tous ensemble. Donc on va travailler avec ça. Ce n'est que le début. Alvin, merci beaucoup. C'était un plaisir de te voir sur cette pause café avec moi. Ça faisait 10 ans qu'on ne s'était pas vu et tu vois, on reconnecte comme ça 10 ans plus tard avec plein d'idées, plein de projets. C'est super inspirant. Merci aussi à vous tous qui êtes en commentaire et qui avez participé à fond aujourd'hui. Ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur. Je rappelle, si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à mettre un petit like. Sur YouTube, c'est pareil, un like. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Humans Link avec la petite clochette pour recevoir les notifications. Parce que je le rappelle, on revient tous les jours de la semaine à 11h pour favoriser de 1 le lien humain, mais aussi l'entraide et la solidarité. Parce que l'objectif de cette pause café de Humans Link, c'est de créer les organisations dont l'humanité a besoin, que l'humanité mérite. Merci à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle pause café. Super. Soyez humains, soyez exceptionnels.
Merci à tous.
Ciao.